France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Hélène Frappa. J'ai lu Nerona d'une traite, un peu en apnée, entre rire et désespoir. Votre dystopie entre évidemment en résonance avec notre monde contemporain par de nombreux aspects. Vous y développez les mécanismes qui induisent l'avènement d'un État autoritaire et j'ai trouvé particulièrement intéressant que cette dictature soit incarnée par une femme.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le parti du feu aujourd'hui dans votre book club, force, énergie et union, mais vraiment pas pour le meilleur, enfin vous en jugerez. Dans son nouveau roman, Hélène Frappa imagine une femme, dictatrice déchaînée, exigeant qu'on l'appelle Monsieur le Prince, menant son monde à la baguette et peut-être à sa perte, encourageant le plus grand travestissement du langage, son vidage et son omniprésence pour un pouvoir qui se confond avec sa mise en récit. Sans compter que vacillent aussi les mathématiques, 2 plus 2 ne sont plus très loin de faire 5. Que peut renverser la littérature quand tout semble déjà sans dessus-dessous? Dans Nerona, c'est le titre du roman qui paraît aux éditions Actes Sud dans cette rentrée littéraire, Hélène Frappa avance l'idée d'une ironie salvatrice et elle est notre invitée. Ensuite, et comme chaque mardi, Mathilde Wagman nous parle littérature jeunesse aujourd'hui. Elle évoque un guide cinéphile pour enfants à partir de 7 ans. On adore. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
Votre livre Nerona a paru aux éditions Actes Sud en cette rentrée littéraire. Vous êtes venue de nombreuses fois déjà au micro du Book Club et on vous en remercie pour parler de vos livres et parfois du livre des autres. Récemment, vous évoquiez avec nous Marie Shelley et vous étiez aussi venue à ce micro pour évoquer une nouvelle traduction d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, si bien que le questionnaire lecture du début, vous l'avez déjà fait au micro de Mathilde Wagman. Vous étiez venue parler de votre livre Gaslighting. J'invite nos auditrices et auditeurs à réécouter ce questionnaire, mais on va en faire un quand même. Et on va choisir, et j'ai choisi arbitrairement, mais manifestement c'est assez bien tiré, 3 flèches dans une bibliothèque réduite pour comme ça inaugurer notre conversation. Autour de 3 textes, Les origines du totalitarisme d'Anna Arendt, Antigonique d'Anne Carson et Antigone de Sophocle. Est-ce que déjà, je prétends que ce sont 3 flèches bien tirées, est-ce qu'elles sont bien tirées?
Oui, parce que le point commun, c'est la traduction. Pas seulement parce que je suis traductrice, mais parce qu'un écrivain est toujours avant tout un traducteur et que sans doute un être humain est aussi lui-même un traducteur. Et ce que nous traduisons, c'est le langage humain. Donc le fait que, en effet, j'ai retraduit Les origines du totalitarisme, qui est le texte de Sophocle, pour autant qu'il y ait vraiment un texte, mais enfin, disons, ce qu'on appelle la tragédie de Sophocle, elle-même retraduite par Anne Carson dans Antigonique. Voilà, c'est le fil. En tout cas, moi, c'est ce qui m'obsède depuis plusieurs années, tous ces textes-là.
Donc, est-ce qu'ils les lient ensemble? C'est pas seulement qu'ils aient été importants pour vous, mais qu'ils soient liés par cette idée de la traduction, quoi.
Alors, il y a ça, et puis, alors, la traduction, c'est la question de l'écriture, mais il y a la question, ce que dit Anne Carson au début d'Antigonique, c'est qu'elle veut que le cri, elle dit qu'est-ce que c'est ma tâche comme traductrice, c'est que ton cri, elle s'adresse à Antigone, ne soit jamais perdu. Donc ce cri-là, moi, il y a beaucoup de cris, en fait, d'où partent Nerona, et en particulier les cris très étouffés des victimes de l'effondrement du pont Morandi, et à commencer par une mère, et le hurlement, une vraie mère qui a perdu son vrai fils, disons, en 2018, quand ce pont s'est effondré. Elle m'a hantée, elle continue à me hanter, cette femme qui était la mère d'un garçon qui s'appelait Mirko, un éboueur qui a traversé le pont et qui est mort. Et elle était là comme une Antigone, hein, sauf que c'était son fils, et elle disait « je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas rendu le corps de mon fils ». Il a fallu 5 jours pour que le corps de son fils soit sorti des décombres, 5 jours durant lesquels elle est restée là, devant l'IKEA, tout pourri de ce quartier prolo, sous les piliers du pont Morandi, qu'on appelait le pont des pauvres. Les riches le prenaient pas, ils savaient que ce pont allait s'effondrer un jour ou l'autre. C'était un pont construit avec la mafia. Bref, tout ça, ça a nourri ces cris-là, ces morts-là. Ils étaient dans mon texte. Et puis, il y a la question de la compréhension. C'est-à-dire, pour le dire avec le mauvais esprit d'Anna Arendt, que j'ai essayé de restituer, hein, qui avait été très gommée par les traductions précédentes. Elle était quand même considérée comme quelqu'un qui avait un humour un peu trash, une ironie un peu de mauvais goût, voire qu'elle était pas tellement une bonne juive, hein, pour reprendre des reproches qui ont été faits, adressés à l'époque à Anna Arendt quand elle a écrit Les origines du totalitarisme. Et moi, je voulais remettre au cœur ce qu'elle appelle la compréhension, la question de la compréhension, de l'élucidation qui ne va jamais sans ironie pour elle, même si cette ironie peut être poignante, c'est le mot qu'elle emploie. Et c'est quoi en fait la compréhension pour Arendt ? C'est se réconcilier avec la réalité. Ça ne veut pas dire accepter la réalité. Mmh. On n'est pas dans la commission réconciliation et pardon et tout, mais pas du tout. En revanche, ça veut dire sortir du déni des faits. Regarder le réel qui nous regarde, en fait. Parce que ces morts-là, cette mère de Mirko, ce garçon de 19 ans, il continue à nous regarder. Voilà, donc c'était ça, en fait, depuis le gaslighting que je voulais faire. Donc tous ces livres-là, finalement, font partie d'une même flottille, je dirais.
Mais c'est une flottille nouvelle, c'est-à-dire que le gaslighting, c'est quand même si ça reprend des choses que vous travaillez depuis longtemps, Hélène Frappa, un texte assez récent pour vous en termes de publication. Cette flottille-là, c'est une flottille qui vous accompagne depuis plus longtemps. Par exemple, prenons le texte d'Anna Arendt, Les origines du totalitarisme, sachant que vous êtes philosophe, que vous travaillez cette discipline en parallèle de bien d'autres de vos activités. Vous le rencontrez quand et pourquoi est-ce que c'est important dans votre parcours ?
Alors c'est une retraduction qui m'avait été proposée. J'ai vécu avec ce texte pendant un an jusqu'au cauchemar. Hein. C'est un texte, c'est une traversée de l'horreur. Hein. C'est une traversée à commencer par le colonialisme, la dictature stalinienne et puis la dictature nazie. C'est un texte qui en effet n'a cessé de me hanter parce que c'est aussi la question, et c'est la question qu'elle pose encore, et j'aime pour le coup l'ironie aussi avec laquelle elle pose, elle dit les livres utiles sont des mauvais livres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Voilà, je partirais de là en fait. Moi je suis partie de là, effectivement, dans l'idée que faire un gentil livre militant, enfin de gauche, qui va nous alerter sur l'état du monde, qui au fond est pas tellement différent depuis que ce soit, j'en sais rien, la guerre du Péloponnèse, puisque la figure de Sparte est une figure qui revient hein, au moment où je parle, que ce soit, bref, cette Méditerranée qui est toujours plus pleine de sang, toujours plus rouge de sang, ces murs que voient les héroïnes de la tragédie, comme par exemple Cassandre, qui ne cesse de se remplir de taches de sang, et puis en face on leur dit « mais tu es vraiment une peau folle, va prendre ton médicament, tu es un peu hystérique, etc. etc. » Bref, toujours cette question-là, avec la double face du langage, comme un gant en fait qui se retourne, qui serait ce que font les écrivains habituellement, moi avec, et c'est plus agréable, je dirais, d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire l'aspect bienfaisant, qui peut être inquiétant, bien sûr, du langage, mais qui est le langage humain, le langage humain. Et puis l'autre aspect, celui que je m'étais coltiné, je dis coltiné parce que ça ne va pas sans peine, hein, dans le gaslighting, et qui devient envahissant. Et il me semblait, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre maintenant que d'écrire ce texte assez bizarre, hein, dans sa forme, qui n'est pas un texte de bon goût. Peut-être il aurait fait rire Arendt, je ne sais pas, mais qui est quelqu'un qui m'accompagne tout le temps. Hein. Quand j'écrivais le gaslighting, j'étais obsédée par elle. Je me disais, c'est là-dessus qu'elle aurait travaillé, c'est-à-dire sur l'articulation entre la violence et le mensonge à notre époque contemporaine. Donc, qu'est-ce qu'il est possible d'écrire maintenant? Ce qui ne veut pas dire que la situation pour les écrivains soit désespérée. Au contraire, moi, ce qui me frappe actuellement, c'est que nous sommes politiquement dans un moment de telle perversion du langage humain que précisément ceux qui en sont la sentinelle, encore, c'est-à-dire les écrivains, pas seulement, à vrai dire, je pense que tout écrivain, tout être humain devrait être de sa place la sentinelle du langage humain. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et d'une certaine manière, ce que nous faisons prend une importance encore plus grande pour moi, surtout dans ce moment de repli très très fort que nous vivons, y compris dans cette, je trouve, rentrée littéraire. Moi, ça me sidère, et voilà.
Qu'est-ce qui vous sidère ?
Ben, ce qui me sidère, c'est le fait, comment dirais-je, que la question de la perversion du langage ne soit pas au cœur même là de ce dont nous parlons. Il y a beaucoup je parle pas des livres eux-mêmes parce que je me permets pas de critiquer les livres eux-mêmes. En revanche, je trouve qu'il y a une éditorialisation en France hein, du côté du repli, un côté papa-maman hein, pour le dire, qui a toujours existé. Moi, c'est pas quelque chose que je critique du point de vue de la littérature elle-même.
D'autant que les figures de mère sont extrêmement présentes dans Nerona d'une autre manière, mais
sauf que je trouve qu'il n'y a pas que cette figure-là bourgeoise, en réalité, qui va avec une forme d'héritage au sens large. Mais il y a aussi la figure fasciste de la maman et du papa. Cette figure-là, elle est omniprésente maintenant. Alors, elle est moins plaisante, elle est beaucoup plus grinçante, elle est plus urticante, comme m'a dit une écrivaine qui avait lu mon texte. Mais elle est là, elle nous obsède, elle nous fait du mal, elle nous empêche de dormir. Donc, il faut se la coltiner. Je répète ce que je disais, il faut la... À un moment, comme disait Arendt, il faut la regarder en face. Sinon... Toujours pour citer Arendt dans Les Origines du totalitarisme, on pratique face à la réalité un déni de réalité qui est ce que faisaient pour Arendt les sophistes.
Est-ce que vous lisez beaucoup quand vous écrivez, Hélène Frappa?
Oui. Alors, je lis beaucoup, du coup, de ce qui est... Enfin, c'est une sorte d'archipel, du coup. Enfin, on peut dire si chaque livre est une sorte d'île, il y a plutôt un archipel et tout ce que je lis va alimenter le livre. Surtout un livre... Enfin, tous les livres, ça marche pour tous les livres. Mais on acquiert comme ça, c'est un peu comme les traducteurs, un savoir d'ailleurs qui peut-être s'oublie après, une sorte de boîte à outils en fait. Donc pour Nerona, c'était beaucoup de... Alors il y a eu beaucoup de...
Ils en faisaient partie, les trois textes qu'on cite là, Les Origines du totalitarisme.
Absolument, absolument.
Sophocle et Carson.
Oui, en tout cas, oui, bien sûr. Carson, complètement. Et je dois dire que pour moi, il y a un avant et un après de ma découverte d'Anne Carson. Je pense que c'est le plus grand auteur vivant au moment où on parle. Je la mets pas au masculin, mais je veux dire, c'est pour signifier que c'est pour moi écrivaine et écrivain confondus. La découverte de cette écrivaine, de cette à la fois poétesse, enfin, elle est inclassable, hein, c'est un cliché dit comme ça, mais c'est impossible de la classer. Je l'ai découverte, c'est mon fils qui me l'a fait découvrir. Et depuis, son travail de généalogie, elle est helléniste. Au départ, comme est helléniste, Florence Dupont, latiniste et helléniste, qui retraduit l'Antigone de Sophocle. Et c'est par cette traduction que j'ai eu accès pour la première fois vraiment à ce texte. Donc, le fait qu'elle se livre à cette généalogie de l'être humain à travers, à commencer par le langage, toujours. Et qu'elle, elle-même soit toujours, Anne Carson, si sensible, hein, de manière si poignante aussi, pour reprendre l'adjectif d'Arendt, à ce qui est bienfaisant dans le langage et en même temps ce qui est inquiétant et ce qui peut le détruire, ce qui peut faire honte. Sachant que on a souvent dit depuis comment dire la révolution MeToo que la honte devait changer de camp, je pense qu'elle doit changer de camp aussi dans le langage, hein, et que ceux qui devraient avoir honte de la manière dont pas seulement les hommes politiques, mais enfin à commencer par eux, certains hommes politiques, qui devraient avoir honte de la manière dont peu à peu ils déshumanisent, ils cadavérisent le langage humain, ce ne sont pas eux. J'emploie ce mot de honte parce que je cite Anne Carson à la fin de mon livre en disant, elle écrit que parfois le langage devrait se couvrir les yeux quand il parle. Voilà, je crois que c'est ce moment qu'on vit, et je suis assez, je sais pas comment dire, presque à la fois rassurée, sidérée, je sais pas quel serait l'adjectif précis. En tout cas, je remarque que ceux qui réagissent à ça, c'est les satiristes. Aux États-Unis, en ce moment, toute forme de satiriste, hein, ça peut même être, récemment, j'ai découvert les derniers épisodes de South Park qui sont mais insurrectionnels contre la dictature trumpiste. Donc il y a quelque chose du côté de la satire, c'est-à-dire du côté de cet art étymologiquement satira ou satura en latin, qui est une macédoine de légumes, c'est-à-dire un mélange sans hiérarchie de goût, un mélange de mauvais goût même. C'est là, à mon avis, que se situe, en tout cas moi, voilà, je me suis dit, c'est à ce, dans ce lieu, depuis cette place-là, que je devais écrire ce livre-là. À ce moment, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre.
Et il y a qui d'autre dans cette constellation, dans la bibliothèque autour de Nerona?
Alors, il y a beaucoup de livres sérieux, historiques sur Néron. J'ai beaucoup lu sur ce personnage. J'ai découvert d'ailleurs qu'il avait jamais eu aucun avatar féminin, ce qui m'a un peu scié aussi, parce que je me disais, après tout, il y a eu tellement d'avatars dans la littérature, dans le cinéma, etc., que, donc, j'ai lu beaucoup sur Néron. J'ai relu un de mes écrivains préférés qui est Virgile. L'Énéide, la Sibylle de Cume, hein, qui inspire la sœur, qui s'appelle Sibylle, la sœur de Néron, elle est un souvenir de ce Virgile que j'ai découvert il y a longtemps au lycée, qui depuis est vraiment un de mes écrivains préférés, qui me fait pleurer à chaque fois que je le lis, avec cette Sibylle napolitaine qui agite ses cheveux à chaque fois qu'elle fait des prédictions, et qui ne cesse de dire à Énée, ne retourne pas aux enfers. Il ne faut pas revenir deux fois aux enfers. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes en train de retourner dans ces enfers que nous connaissons si bien. Et nous allons refranchir cette porte, à moins, comme dit Anne Carson, que nous ne portions sur notre dos notre petite porte elle-même pour éviter de la refranchir. Voilà. Et puis, il y avait les discours de Giorgia Meloni, qui ont été mon corpus aussi, et que j'ai scripté, écouté, volé, mais alors pillé. C'était pas très marrant au début, même si elle est plutôt marrante, je dois dire. Comment dirais-je, elle est cynique, elle a cet humour romain qui est très efficace, qui est l'humour fasciste. Voilà, mais il y avait quelque chose, voilà, il y a toujours un travail documentaire dans l'écriture, hein. Ça peut être, quand j'écrivais Le Dernier Fleuve, c'était La Pêche, j'étais imbattable sur La Pêche à l'époque, ou Les Fleuves. Bon, ben là, c'était les discours de Giorgia Meloni.
On entendra un extrait tout à l'heure, parce qu'en effet, c'est une matière qu'on retrouve transformée et malaxée dans votre texte Nerona, dont on va parler dans un instant. Hélène Frappa, juste après Lucie Antounès, It's Amazing.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Chacun ici est conscient de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Aujourd'hui comme hier, et jusqu'au dernier jour, chacun d'entre nous honorera la responsabilité que le peuple nous a donnée. Le prince, avec l'appui de sa coalition de centre-droit, continuera à décevoir le front islamo-wokiste qui espère la défaite des fascistes, que nous ne sommes pas. En ce jour anniversaire, je veux vous assurer qu'aucun complot, aucune manœuvre sournoise d'espionnage et de déstabilisation fomentée par nos ennemis, ou même nos proches, ne nous atteindra. Pourquoi est-ce qu'on a réussi ? Notre réussite, nous la devons à notre liberté. Nous sommes des gens libres. Il est impossible de penser sans être libre. C'est pourquoi je voudrais associer notre victoire à celle de tous les dirigeants dans le monde qui, comme nous, chantent l'hymne de la liberté. Ce discours, c'est un discours qui se rattache à cette figure politique Nerona que vous inventez dans votre dernier roman, Hélène Frappa. Et toute ressemblance avec des discours prononcés récemment ne serait pas du tout fortuite, on l'a entendu, ces échos vous intéressent. Vous disiez même que les discours de Giorgia Meloni avaient participé comme une matière première au même titre que toute la constellation littéraire que vous avez citée dans le questionnaire lecture. C'est-à-dire, si on rentre dans votre atelier d'écriture, concrètement, vous les écoutiez, vous les incorporiez, vous les notiez.
Alors là, en l'occurrence, il y a un morceau, en effet, dans ce que vous venez de lire, qui est que Meloni avait prononcé après la victoire de Javier Milei en Argentine, hein, donc l'homme à la tronçonneuse, elle avait qui parlait avec son chien mort. Elle a chanté cet hymne de la liberté que je lui ai volé. Alors j'ai lu une thèse en fait italienne sur son génie rhétorique, hein, parce que en fait, moi c'est quelqu'un en fait. Je crois que j'ai dans mon précédent livre là, sur le gaslighting, j'avais vu soudain cette figure de Cassandre comme annonciatrice, alors figure qui en fait a été très importante depuis les années 80 aux États-Unis dans tout le corpus féministe, mais comme vraiment une figure finalement, une des figures possibles de l'écrivain. Il y en a plusieurs, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas, bien sûr qu'il y en a plusieurs. Mais je me suis dit, au fond, c'est ça que je fais. Sans le savoir, je savais pas. Mais ce que je fais, ça a à voir avec ça, bien avant le livre sur le gaslighting. Ça a à voir avec voir des taches de sang sur les murs que personne ne voit. Et on vous dit, mais non, le mur est beige. Hein, il est de très bon goût. Il est assorti au canapé beige. Et tout est parfaitement beige. Et vous dites, mais non, il y a ces taches de sang. Et on vous dit, mais enfin, pauvre folle. Hein. Ça, c'est Créon. Et j'ai vu, il y a plusieurs années, avant son élection, sur les murs de Rome, le visage de Giorgia Meloni. J'ai vu ce regard hein, qui est d'une méchanceté sidérante. Ces gros yeux globuleux que j'ai vu aussitôt tomber, comme dans un dessin animé. Enfin, les Simpsons, il y a des yeux qui tombent, j'ai vu ça. Et j'ai vu surtout ce petit prénom de femme, Giorgia, accolé à cette affiche. Et je me suis dit, voilà, c'est elle en fait. C'est elle qui va y arriver. C'est elle qui va y arriver en Italie, mais c'est par elle que le fascisme français un peu à la peine, hein, qui semblerait qu'il y ait eu pendant plusieurs décennies, même s'il n'a cessé de croître, un certain goût pour l'échec aussi au RN, FN devenu RN, eh bien s'il y arrive un jour, ce sera par elle, en fait. Ce sera elle à l'avant-garde de l'Europe, comme l'Italie l'est toujours, et comme je pense maintenant les gens commencent à le comprendre, de même qu'elle l'a été à l'époque, à cette époque qui était celle de Néron, à cette époque de l'Empire romain. Et j'ai commencé à travailler sur elle, ça m'a fait faire quelques cauchemars, un peu comme, et je pense que nous vivons une époque psychiquement très très dure. Enfin, c'est difficile aussi. Moi, ça me fait penser à un de mes livres préférés. Enfin, j'en ai beaucoup, mais qui est le livre de Charlotte Berat, Rêver sous le Troisième Reich. Hein, cette jeune militante qui a cette idée au moment du nazisme de recueillir les rêves des personnes autour d'elle, et puis de proche en proche, elle en recueille 300 ou 400. Elle comprend le potentiel insurrectionnel de ce travail qui consiste à demander aux personnes de quoi as-tu rêvé. J'ai rêvé que j'étais à la poste et j'étais brune et j'étais la seule brune, et tout le monde était blond. Et là, on comprend comment s'infiltre dans cette vie intrapsychique, comment va s'infiltrer la dictature. Elle les envoie à Londres, ils sont publiés ensuite. Bon, moi, j'ai commencé à faire des cauchemars avec Giorgia Meloni. Et voilà, j'ai lu ses mémoires. J'ai découvert qu'elle avait mis le feu à son appartement quand elle était enfant, littéralement, je veux dire. Alors, ce dont elle fait du storytelling, hein, puisque c'est ce qu'elle fait, c'est son boulot, enfin elle n'est pas la seule, hein. Elle le fait plutôt très bien, et elle abîme très bien, disons, ce que moi j'appellerais le récit en tant qu'écrivain, qui devient du storytelling, et à partir de là, j'ai vu Néron, en effet, et je l'ai scripté, je l'ai écouté, et je dois dire que ça a été assez pénible, hein. Jusqu'au moment où j'ai trouvé cette forme qui est une forme qui m'a fait rire, en fait. Et ça a été le moment où j'ai pu, disons, m'émanciper de ces cauchemars-là.
On va reparler de cette forme qui est une sorte d'agencement des discours. En effet, on passe de parole en parole. On est presque à l'écoute de ce texte plus que on le lit. Et Hélène Frappa, quand on aime la radio, on a très envie qu'il soit adapté. Je le dis au passage, on écoute un discours de Giorgia Meloni.
On parle maintenant de supprimer la mention père et mère sur les documents officiels. Parce que la famille est un ennemi. L'identité nationale est un ennemi. L'identité de genre est un ennemi. Pour eux, tout ce qui définit une personne est un ennemi. C'est le jeu de la pensée unique. Ils veulent supprimer tout ce que nous sommes. Parce que quand nous n'aurons plus d'identité, quand nous n'aurons plus de racines, nous serons privés de conscience et incapables de défendre nos droits. C'est leur jeu. Ils veulent que nous soyons le parent 1, le parent 2, le genre LGBT, les citoyens X, des codes. Mais nous ne sommes pas des codes, nous sommes des personnes et nous défendrons notre identité.
Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. On ne me l'enlèvera pas.
J'ai un aveu à vous faire, un secret à vous dire. Le moment est venu de révéler une histoire que personne ne connaît. Personne sauf les trois héroïnes de mon enfance. Ma grand-mère, ma mère, ma grande sœur Sybille. Dans notre cuisine minuscule, grand-ma saupoudrait ses plats de piment. Les gousses rouges qu'elle concassait sur la table, elle les appelait mes langues de feu adorées. Elle chantait en cuisinant. Si tout finit dans le feu, brûlons ensemble. Regarde, regarde, la nuit où montent les flammes. Elle était née dans les plaines du sud. Terre de sécheresse, d'incendies, de récoltes qui partent en fumée. L'homme apprend à faire de l'ennemi son allié. Quand grand-ma avait mal dormi, elle trempait une langue de feu dans son café. C'est de là, j'en suis sûre, que nous vient notre voix rauque. Toutes les femmes de notre famille en héritent. Même ma fille Victoire qui vient de fêter ses 10 ans. Alors mes adversaires peuvent bien se moquer de mes vociférations. Qu'ils montent donc à la tribune pour tourner en dérision de leur petite voix fluette ma voix grave. Ma voix gronde comme la révolte d'une femme imprégnée de la terre de ses ancêtres.
Giorgia Meloni dans le réel en 2019 lors d'un meeting politique. Hélène Frappa, et juste après un extrait de votre texte Nerona, où elle prend la parole et elle dit « Je suis ça ». Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis de la terre de mes ancêtres. Et elle va dire des anecdotes. Un peu plus loin, elle dira aussi « glissons une petite anecdote, ça va m'humaniser ». On sent qu'il y a un geste double dans votre écriture où en effet, on vous sent réfléchir à cette mise en récit de soi-même à des fins politiciennes, à des fins de storytelling, de captation de l'attention du peuple. Et en même temps, on a l'impression que ça vous intéresse. Enfin, nous, moi, je suis ambivalente quand j'écoute ce texte-là. C'est que je me laisse aussi, je tends l'oreille en fait. Ça m'intéresse de l'écouter dire « je suis ceci ».
Mais ça, c'est pour le coup, c'est le côté macédoine, hein, c'est-à-dire c'est l'ambiguïté. Alors, c'est une question vraiment géniale, parce que ce discours, cet extrait de discours de Meloni, qui était donc à un congrès, qui était dont le propos était homophobe, hein, il s'agissait donc de détruire les quelques avancées législatives qui avaient été faites pour en effet créer un statut à l'homoparentalité, un statut légal. Dans ce discours finit par effectivement ce moment de vocifération, ce moment de haine, où elle hurle « Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis chrétienne, vous ne me l'enlèverez pas, vous ne me l'enlèverez pas ». C'était à quelques semaines avant son élection. À ce moment-là, un groupe musical, enfin d'extrême gauche, terrorisé par ce truc, le sample, en italien, le sample et en fait un morceau. Je veux dire, ils le font pour faire entendre, en fait, à la fois pour, d'une certaine manière, pour se foutre de la gueule de Giorgia Meloni, mais aussi pour faire entendre la haine, en fait. Sauf que ça marche tellement bien, c'est
comme
tellement
Trump avec
pop que ça devient le tube de l'été. Ouais. Le tube de l'été du mois d'août. Et donc, dans toutes les discothèques, au grand désespoir de ce groupe-là, ça devient une chanson et ça devient un hymne. Donc vraiment, il y a une question pour un écrivain qui est immense, en fait. On fait comment, en fait? Y compris
c'est
avec
gluant,
la séduction.
En fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça nous attrape, en fait. C'est que c'est séduisant, quand même.
Alors,
peut-être que je suis faible.
Elle est historique, cette faiblesse. Enfin, elle est anthropologique, elle est existentielle. Alors après, la question, effectivement, c'est que, est-ce que c'est une femme, Giorgia Meloni? Est-ce que c'est une femme, Nerona? Elle est de sexe féminin. Elle est de genre patriarcal. Elle dit qu'elle est chrétienne. Bon, au passage, elle oublie qu'il y a des protestants, parce qu'elle veut dire catholique. Donc déjà, voilà, il y a ce gaslighting tout le temps. Mais la question, c'est le montage. C'est-à-dire, effectivement, aller à fond dans la sincérité, enfin, en tout cas dans la comment dire sincérité,
il y en a zéro.
J'ai d'ailleurs absolument volé aussi, pillé ses mémoires. Je veux dire, Mais vraiment...
D'ailleurs, elle passe son temps à dire « je me fous d'eux, voilà. je ne fais que construire mon récit, glissons ça ici, tiens, ça va faire un bon arche narratif ». Enfin, il n'y a pas de sincérité, sauf que ce qui est intéressant, c'est la séduction qu'opère malgré tout ce discours.
Voilà, alors moi, ma question, c'était la question formellement du livre. Parce que tant que j'étais dans ma cuisine en train d'écouter les discours de Giorgia Meloni, c'était juste, comment dirais-je il y avait pas formellement, le livre n'était pas là, en fait. Et quel livre je pouvais faire? J'allais pas reproduire non plus les discours de Giorgia Meloni. Je veux dire, ils existent, mais personne ne les écoute. Donc c'est là où peut-être Cassandre arrive, et je dois dire que j'ai une amie cinéaste qui m'a dit un truc génial, enfin je cite parce que je l'avais pas compris en l'écrivant, elle m'a dit ce principe du cut-up finalement, c'est, ça oblige le lecteur à être dans ses discours, à les entendre, parce que bien sûr que personne n'a envie de se réveiller le matin en écoutant les discours de Giorgia Meloni ou de Marine Le Pen en boucle. Donc là, une fois qu'on est dans ce chapitre-là, c'est trop tard, on y est. Après, effectivement, arrive le moment, et c'est comme ça que le livre est venu, le moment des conseillers où la vraie Giorgia, si je puis dire, enfin la vraie, pardon, Nerona, je les confonds, mais en vrai je les confonds pas, surgit et elle est ordurière, et elle est odieuse, et elle est inhumaine, et elle est drôle, à vrai dire, tellement elle n'a aucune limite, et comme en bonne fasciste, elle pense que tout est possible. Après, évidemment, c'est de la littérature, enfin, j'espère, c'était ce que je voulais faire, mais je veux dire, donc il y a Nerona et il y a Giorgia, c'est pas la même. Moi, Nerona, d'une certaine manière, oui, je peux dire que j'adore Nerona, c'est mon personnage, j'ai vécu avec elle, donc comme tous mes personnages, je l'aime. Sinon, je passerai pas autant de temps avec elle. Je l'aime même si elle est immonde, disons-le.
Ouais, elle est immonde, mais elle est immonde. Et quand elle est immonde, elle est drôle, vous le dites, Hélène Frappa. Et en effet, il faut revenir sur cette forme et sur ce cut-up, sur ce montage. Donc, dire que ce sont des chapitres de plutôt courte durée qui se succèdent et qui, en effet, nous font forcément tendre l'oreille différemment, puisque avant d'entendre un discours, on a entendu par exemple cette scène qui se passe dans la voiture. Tu te souviens de ton entretien d'embauche? Oui, monsieur le prince. J'entends rien, baisse la vitre. Je répète, tu te souviens des deux conditions pour ton embauche? Oui, monsieur le prince. Les deux, t'es un, me taire, deux, température à 19 degrés. Et elle a combien la température d'après toi? Vous voulez parler de la température extérieure? Ben aujourd'hui, il fait, je me fous de la température extérieure. J'ai assez d'écolo sur le dos, je parle de la fournaise de cette bagnole. J'ai déjà dû me remettre trois fois de la poudre. Mon fond de teint dégouline, ma coiffure ressemble à rien. C'est quand même pas compliqué, bon sang, le thermomètre de la limo affiche 24 degrés, ce qui veut dire 5 degrés de trop. Quand je sors d'ici, je vais être impeccable. Pourquoi tu crois que j'appelle la limo mon igloo ? Fin de chapitre. Elle a été odieuse, elle le sera dans 5 minutes avec un,
c'est son larbin,
avec un journaliste.
C'est un de ses larbins.
Elle ne fait que ça. Et du coup, on ne peut, quand on l'entend ensuite larmoyer sur sa sœur, sa mère, son enfance, le feu, on n'a pas oublié qu'elle a été cette femme atroce une page plus tôt. C'est ça aussi que produit le cut-up, Hélène Frappa.
Oui, c'est l'effet sitcom, enfin, ce que j'appelle l'effet sitcom, c'est-à-dire des scènes très courtes. Le livre devait être très court, ça c'est vraiment, comment dire, formellement, je l'ai voulu depuis le début, parce que j'allais pas passer ma vie avec une fasciste, et que mon lecteur allait pas passer sa vie avec une fasciste, et qu'il s'agissait pas sur 10 000 pages de dire que le fascisme, c'est mal, parce que comme dirait Hannah Arendt, ça sert à rien, en fait. Donc la question, c'était de trouver effectivement la forme qui puisse, de la manière la plus criarde, la plus tout à l'heure je parlais du côté bourgeois du de l'obsession du papa maman tel qu'il est
dans moi une forme de repli.
Là non, c'est pas bourgeois, c'est de mauvais goût, ça y va, c'est criard, c'est moche en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Et est-ce que elle devait prendre le pouvoir en même temps sur mon livre, parce qu'après tout le dictateur du livre c'est quand même moi, la dictatrice du livre, enfin je veux dire c'est moi qui l'écris théoriquement. Et à un moment je me disais, mais Nerona est en train de me bouffer aussi. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée une autre voix, qui est arrivée alors à travers le rêve. Cette fois-ci, c'était plus un rêve qu'un cauchemar. Julia Roberts. Elle est arrivée dans mon livre et elle est arrivée. Et c'est comme ça que cette figure que je ne cessais d'entendre depuis des années, qui était la figure dont je parlais tout à l'heure, de cette mère, hein, de cette mère de Mirko qui était là, qui avait passé 5 jours et 5 nuits devant cette Ikea pourri sous ses piliers du pont en disant « je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas rendu le corps de mon fils ». Elle est arrivée et là tout s'est dédoublé en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que le pont que construit Nerona, qui est le pont que construit Meloni, hein, c'est-à-dire un pont, comme l'a dit une magistrate calabraise, qui consiste non pas à relier deux continents, l'Italie et la Sicile, mais à relier deux clans de la mafia. Ce pont-là, ce pont de la drogue, ce pont ce pont de la mafia, ce pont de la corruption politique.
Et ce pont de la vérité dans votre, dans voilà. votre livre.
Et cet autre pont, inspiré directement du pont Morandi, qui est le pont tragique, le pont où l'être humain va s'effondrer. Et pourquoi il s'effondre à ce moment-là? Et en même temps, il y a en dessous une mère qui est là et qui dit, qui est, pour le coup, qui est la sentinelle. C'est ces deux textes-là qui se sont rencontrés à ce moment-là.
Alors justement, sur les deux voix ou la cohabitation de ces deux voix, on écoute une archive de Nathalie Sarraute en 1989.
Je me laisse toujours un peu aller à ce que j'ai envie de faire, sans penser que c'est ça qu'il est nécessaire de faire pour soutenir certaines théories. Je me laisse aller à ce qui m'intéresse, à ce qui commence à vivre en moi. Et à ce moment-là, j'avais eu envie de reprendre quelques instants de mon enfance, des instants que j'avais choisis justement parce que la plupart du temps, j'y retrouvais ces mouvements intérieurs que j'avais appelés tropisme, faute de mieux, quand j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai terminé ce livre, je suis retombée dans mes folies toujours, parce que c'est mon élément, parce que c'est là que ça m'intéresse de chercher, de travailler. Et alors, je m'étais dit à moi-même, mais ce n'est pas possible, parce que je vais être prise, je ne serai plus libre de mes mouvements, je vais être prise dans du réel, il faudra que j'adhère au réel, tu ne vas pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça. J'avais noté cette espèce de dialogue dans un cahier, et après ce dialogue, je l'ai repris, en l'arrangeant, en le travaillant un peu, je l'ai repris dans mon livre. Et ce dialogue court tout au long du livre. C'est le dialogue entre celui qui raisonne, qui se rappelle, et celui qui sent et se laisse aller à ses sensations.
La voix de Nathalie Sarraute en 1989, elle parle de la manière dont se structure son livre Tropisme. Mais en effet, c'est une forme à laquelle on pense en ouvrant Nerona, bizarrement, puisque première page, voilà, on a la prise de parole de Nerona. Et puis deuxième chapitre, deuxième page, vous êtes sûr de quoi pour l'anecdote? On a presque l'impression d'avoir ce dialogue de Sarraute qui dit « tu vas vraiment faire ça, tu vas vraiment écrire sur ton enfance ». Elle parle aussi de ses folies de toujours, retourner là où ça l'intéresse de travailler. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que vient de dire Sarraute?
Alors moi, ça me fait pleurer d'entendre Nathalie. J'ai un amour fou pour Nathalie Sarraute, une admiration absolue. C'est quelqu'un que j'aime passionnément. Je pense qu'elle est... J'étais très bouleversée de découvrir récemment le livre que Monique Wittig lui a consacré. Je pense qu'elle est presque un peu oubliée. Et c'est, au fond, je me l'étais pas dit, mais mon livre sur le gaslighting commençait par une citation d'un des plus beaux livres de Nathalie Sarraute qui s'appelle « L'usage de la parole ». Et ce livre-là, Nerona, commence par une citation de celle qui, pour moi, est la Nathalie Sarraute italienne, qui est Natalia Ginzburg. Voilà. Donc, ce qui est extraordinaire...
Donc, vous dites qu'elles ont toutes...
Elles parlent du réel. Elles parlent du réel.
Et un rapport très matériel au langage.
Exactement. Elles parlent du réel. En fait, c'est le langage. Notre réel, c'est le langage. Donc, la matière de ce livre, on pourrait dire, la matière, c'est l'actualité. Non, la matière, c'est pas l'actualité.
Ah non, c'est le discours, c'est la parole.
La matière, c'est... La parole, c'est par la parole que le fascisme nous a servi, parce que c'est parce qu'il a servi le langage, notre langage, et c'est en asservissant notre langage humain, en le déshumanisant, en le renversant, en le pervertissant, en faisant donner comme un petit dumpty, en disant la seule chose qui compte, c'est qui est le maître. Lewis Carroll comprend bien que ça commence avec le langage, en fait, ça. Et ça, Sarraute, elle ne cesse de le dire, elle ne cesse, c'est quelqu'un à qui je reviens toujours. C'est pour moi, pour le coup, le ou la plus grande écrivain, sans doute. Enfin oui, française en tout cas, de la deuxième moitié du XXe siècle, il n'y a aucun doute. Et son rapport au langage, ce rapport d'exilé, ce rapport d'apatride, ce rapport de quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle et qui nous décrit que les mots sont des sensations exactement pas... Je parlais de satire. C'est important que ça soit... c'est comme la farce. C'est important que ce soit des mots culinaires au départ. Je veux dire, avant. Parce qu'en fait, moi, je connais pas trop. Je dois dire que j'ai jamais appris les termes, comment dirais-je, techniques pour décrire les genres littéraires, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Mais là, comme le mot satire est souvent revenu, je me suis dit, il faut peut-être que je me demande ce que c'est que la satire. Donc, j'ai cherché satire, satira, satura, la Macédoine, farce, ça vient de la nourriture. Et Sarraute, c'est celle d'enfance qui décrit comment ces mots, certains mots, oh là là, lui font un goût horrible dans la bouche, restent comme des cailloux, le mot fer. Hein. On a fait l'Espagne, tiens. on s'est fait un restaurant. Ça, c'est des mots. Moi, quand j'entends ça, ça me fait le même effet, pour le coup, que Nathalie Sarraute quand elle parle de l'usage du mot faire et qu'elle essaye de l'expliquer à son oncle et il comprend pas, en fait. Donc, cette sensorialité et le fait que les mots existent pour nous, enfin, les mots ont s'entendent bien avec d'autres mots, ils font famille ou pas. Tout ça, c'est ça qui a un sens humain pour nous. Et c'est ça, c'est pour ça que le fascisme, c'est pas un, comment dirais-je, c'est pas juste un slogan qui est brandi. C'est quoi le slogan du fascisme? Il tient en trois mots qui sont vive la mort. Bon, vive la mort, c'est pas de moi, hein, c'est de Franco. Donc, tout ce qui pour nous est notre vie, tout ce qui nous fait tenir en vie, tout ce qui nous fait accéder à la vie, c'est-à-dire le langage, dit nous êtres humains, est dévitalisé et cadavérisé. Et c'est après que les humains sont cadavérisés, en fait.
C'est d'abord les mots, quoi.
Il faut commencer par dire la femme n'existe pas pour ensuite avoir Madame Pellicot. Mais ça commence par le fait que la femme est interdite de langage. Le fascisme, c'est la même chose, en fait. C'est exactement ce phénomène-là. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me paraît être vraiment, et que quand je vois d'ailleurs certains écrivains français, hein, qui maintenant commencent à dire Giorgia Meloni avec sa petite robe bleue virevoltante, elle est vraiment charmante, etc. Tout ça, toutes ces manières actuellement de dire, de faire trois pas vers l'accession du RN au pouvoir, pour dire
elle
nommer,
fait la une, m'a-t-on rappelé, elle fait la choses. Une de l'Express, voilà. En se demandant si Meloni pouvait être un exemple pour l'Europe.
Voilà, puisque doit être un exemple pour l'Europe. C'est intéressant, c'est doit être. Doit être, ça veut dire elle l'est déjà. C'est le verbe devoir, tout de suite que j'ai remarqué. Donc ça veut dire, au cas où les 5, 6, 7, 8, une récente ne vous aient pas mis cette injonction dans l'esprit, maintenant on va passer au verbe devoir, que Nathalie Sarraute tout de suite aurait remarqué, et on va vous dire, voilà, le RN français, les fachos français sont un peu nuls par rapport à elle, qui est un génie politique, c'est un génie politique, Giorgia Meloni. Donc, bah, si vous voulez être élu, c'est elle qu'il faut prendre. Voilà ce que dit, ce qu'a vu Cassandre, voilà ce que dit Cassandre. Cassandre, c'est pas moi. Elle parle à travers moi, mais elle parle aussi bien à travers d'autres. Et c'est ça, elle parlait sans aucun doute à travers sa route quand elle s'exprime comme ça. Donc, notre réel, dont nous devons prendre soin, c'est le langage. Et qu'est-ce qu'il est malmené? Qu'est-ce qu'il est abîmé? Qu'est-ce qu'il est sali? Qu'est-ce qu'il se remplit de honte? Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Certainement pas des bons petits romans de gauche mignons qui vont dire, ça sert à rien, je pense. Et c'est en plus très narcissique comme démarche, à mon avis. C'est pas intéressant. Je crois pas tellement à l'auteur, en fait, hein. De ce point de vue-là, l'auteur qui serait en première ligne pour dire, regardez comme je suis humaniste. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons de tout ça qui est assez moche pour quand même continuer à être cette sentinelle-là du seul réel qui est le nôtre, nous autres écrivains, qui est le langage.
Alors Julie, pour peut-être faire un pas dans la réponse à cette question, Hélène Frappa, l'auditrice du Book Club, se dit que peut-être vous proposez d'en rire.
Bonjour le Book Club, bonjour Hélène Frappa. Votre dystopie entre évidemment en résonance avec notre monde contemporain par de nombreux aspects. Vous y développez les mécanismes qui induisent l'avènement d'un État autoritaire et j'ai trouvé particulièrement intéressant que cette dictature soit incarnée par une femme, elle-même entourée par des femmes, évacuant ainsi la corrélation entre autorité et masculinité et révélant que la domination n'a pas de genre mais des certitudes et des partisans. Mais ce qui m'a le plus interpellée et ce sur quoi j'aimerais beaucoup entendre votre opinion, c'est sur les raisons qui peuvent nous pousser à rire, voire à moquer celles et ceux qui nous gouvernent, alors même qu'ils détiennent le pouvoir de nous maltraiter. Est-ce que le rire est devenu un mode de survie, une mise à distance du monde? Merci pour votre réponse.
Merci Julie pour votre lecture et pour cette question à Hélène Frappa. En effet, on rit en vous lisant, Hélène Frappa. Alors, quel genre? Est-ce que c'est une réponse à la question que vous posiez juste avant d'entendre la voix de Julie?
Oui, alors, sur la question du genre, c'est très juste, hein. Je pense que Julie a décrit parfaitement le fait qu'il faut pas confondre sexe et genre, hein. C'est-à-dire qu'on peut être du sexe féminin et être du genre patriarcal. Nerona, c'est ça, c'est ce qu'elle est. Et en plus, et c'est ça qui est, je trouve, passionnant, c'est qu'elle annonce ce qui est en train de se passer là, qui est précisément ce moment où la figure du papa dictateur est en train de s'accompagner de beaucoup de mamans dictatrices. Hein. Il y a Alice Weidel aussi en Allemagne, qui en plus est lesbienne, marienne sri-lankaise. Enfin, c'est parfait, disons, dans le gaslighting. Il n'empêche qu'elle adore son grand-père, son grand-papa nazi, elle le dit, hein, je la cite. Donc, cette figure-là, qui est une figure totalement Manif pour tous. Grand moment de gaslighting, ne serait-ce que le terme. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais peur de confondre Mariage pour tous, Manif pour tous. C'était fait exprès, en fait. C'était pour induire cette confusion. Donc ça, c'est passé d'abord par le langage. Et je trouve que, voilà, sur tous ces clichés, ces lieux communs, sur la douceur féminine, l'essentialisation de la femme, ça permet de comprendre déjà, enfin, le langage, les mots eux-mêmes, et par exemple, le fait que Nerona, ce genre, alors elle pète un peu les plombs de plus en plus, mais Nerona, aussi parce que je dois dire que c'est assez génial, un personnage qui à ce point-là devient.
Elle veut qu'on l'appelle le prince.
Plus déchaînée, voilà. Et elle se genre au il, au elle, bon. Et puis, effectivement, l'humour. L'humour ou l'ironie. À la fin du livre sur le gaslighting, c'était ce que, le film de Georges Cukor m'avait permis de comprendre, mais en fait, c'est-à-dire de vivre, hein, la compréhension vraiment au sens arendtien, qui est vraiment une expérience, en fait, existentielle, de comprendre que il n'y a pas de compréhension sans élucidation. Et l'élucidation, elle repose sur l'ironie, comme dit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. Donc cette ironie, c'est une arme de retournement. Pas l'arme des gaslighters qui vont prendre un mot et le pervertir en un autre. Non, une arme qui est une arme de survie. Alors je disais de survie psychique, parce que nous sommes tous très attaqués. Nous sommes tous, là je me permets un nous, démoralisés par ce qui se passe, inquiets. Et je pense que vraiment la littérature, elle est cruciale. Je le dis avec beaucoup de véhémence, mais pour ça il faut rire. Oui, il faut que ce soit.
Et c'est quel genre de rire? Parce que évidemment le rire, il peut être de part et d'autre. Et Julie, notre auditrice, disait, son expression, c'était pas à quoi bon rire de ceux qui auraient le pouvoir de nous combattre ou de nous malmener. Parce que eux-mêmes rient de nous, mais donc c'est quel genre de rire, Hélène Frappa ?
C'est pas le cynisme. Ils rient de nous au sens où ils sont cyniques. Voilà. Ils nous prennent pour des cons, pour le dire clairement. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je dois dire que je me suis inspirée aussi beaucoup de formules d'hommes politiques français. Hein, et cette manière, alors, il paraît, une linguiste m'a dit ça, c'était génial. La dislocation sur la gauche. Dislocation sur la gauche, c'est les trucs du genre « les Français, virgule ». Ils ont besoin de sécurité. La France, virgule, elle a besoin de paix sociale. Bon, Hollande l'a beaucoup pratiqué, hein, mais celui, je pense, qui est le premier vraiment à abîmer la langue française, c'est Nicolas Sarkozy, et c'est un moment très important dans le langage, dans notre langage, parce que c'est le moment où, à la fois, il y a un ministère de l'Identité nationale, des tests qui vont être pratiqués pour l'accession à la nationalité française, qui sont des tests de langue extrêmement difficiles, qui deviennent beaucoup plus complexes, et en même temps, simultanément, celui qui détient l'autorité, le président de la République, va se mettre à abîmer le langage, va se mettre en consciemment. Ça, moi, c'est du cynisme, je trouve pas ça très drôle. Le rire que je préconise, c'est un rire insurrectionnel, c'est un rire, il y a quelques temps, j'avais eu une formule qui était que les petites filles sont des punks. Hein. C'est un rire punk, c'est un rire de petite fille au sens de on a parlé de Lewis Carroll il y a quelques mois dans cette émission, c'est le rire d'Alice, c'est l'ironie, c'est ce rire-là, en fait, c'est le rire de la sitcom, c'est le rire d'une forme d'absurde, mais qui va se réemparer du langage et des chaînes qui sont mises autour de nous pour s'en extraire, oui.
Parce que c'est un rire, parce que c'est un rire qui témoigne de la compréhension et de l'élucidation dont vous parliez, Hélène Frappa.
Oui. Et c'est le rire de la sortie de la peur. Voilà, c'est le rire de la sortie de la peur. C'est-à-dire, c'est le fait, comme dans ce que je disais dans mon livre sur le gaslighting, c'est à partir du moment où l'héroïne du film de Cukor se met à dire « je suis folle ». Ok, elle reprend ce mot qui l'a terrorisée, au point qu'elle a pu croire que sa mère était folle, sa mère est morte en couche, que sa grand-mère était folle, qu'elle est issue d'une lignée de femmes folles qui remonte. Alors, il y a plein de mythologies pour faire commencer, par exemple, avec Hésiode, ce début de la race des femmes, pour citer Hésiode, hein, cette sorte de folie comme ça, cette génération de catastrophes qui arriverait par les femmes, etc. Au moment où elle reprend ce mot, et elle le renvoie comme une balle, hein, comme un chat renverrait la balle, comme une petite fille, la petite Alice renverrait la balle, elle n'y croit plus. Elle est dégagée de cette peur par laquelle le mot, exactement ce que montre Nathalie Sarraute dans L'usage de la parole, qui a des mots qui, par exemple, « ma petite », il y a un chapitre merveilleux de Nathalie Sarraute là-dessus, « ma petite », ce mot de l'humiliation, les femmes le connaissent bien, ce mot qui rapetisse, mais en même temps, quand on dit « mais tu me prends, enfin c'est un peu humiliant, mais non, t'exagères. Hein, ça c'est Antigone de Sophocle. Tu exagères toujours. Et Anne Carson renchérit en disant, en parlant d'elle-même, mon père me disait, tu exagères. Bon, moi c'était plutôt ma mère. Tu exagères. Tu as beaucoup d'imagination. Ce que font les écrivains, eh bien allons-y. Allons-y, partons de cette exagération, de cette soi-disant exagération, qui est en fait un outil qui consiste à dénouer les fils du gaslighting. Et quand la peur est tombée, elle ne revient pas. Elle disparaît. Et puis, regarder ce qui nous regarde, une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on a regardé, qu'on est sorti de ce que Arendt appelle le déni sophistique, on ne peut plus ne pas le regarder, on ne peut plus ne pas l'avoir vu, on ne peut pas ne pas voir ce fascisme autour de nous, et on ne peut pas ne pas le voir. Et ça, c'est ça, ce que produit la littérature. Et c'est crucial.
Le
c'est vital.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et comme chaque mardi à cette heure-ci, on vous retrouve Mathilde Wagman pour faire un petit peu de place aux livres pour les enfants. On a parlé beaucoup hein, des enfants et du punk des petites filles et de la subversion de l'enfance. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre qui donne envie d'être fermé pour faire autre chose.
Et oui Marie, je vous parle d'un livre qui donne envie, terriblement envie d'être refermé pour aller voir des films, de très bons films et partager ce bonheur-là avec des enfants. Ce livre s'appelle Le meilleur du cinéma pour les enfants, sous-titre Les films incontournables à montrer aux plus grands à partir de 7 ans. Il est coédité par les éditions du Seuil et la plateforme vidéo Benchy, créée en 2016 à l'initiative du directeur du studio des Ursulines, une salle de cinéma indépendante située à Paris dans le 5e arrondissement. Le site Benchy.fr permet, moyennant un abonnement assez bon marché, de voir une sélection de très bons films que l'on peut apprécier dès le plus jeune âge. Benchy, ai-je appris dans ce livre, c'est le nom que l'on donnait à l'époque du cinéma muet au Japon à l'artiste qui, pendant les projections, commentait les films et lisait les intertitres. Un Benchy accompagnait donc l'expérience de la découverte du cinéma, et c'est exactement ce que fait ce livre en proposant une sélection de films retenus en raison de la qualité de leur mise en scène, de leur singularité, de leur faculté à s'inscrire dans un patrimoine cinématographique par-delà les modes du moment.
Je pense à toutes celles et ceux qui, comme moi, ont tapé dans un moteur de recherche quel film regarder à partir de 7 ans. Ici, on pourrait l'ouvrir. Alors, comment ça se présente et comment ça marche ce guide?
L'une des particularités de la plateforme Benchy que le livre reprend, c'est de proposer des recommandations par âge. Mais attention, il ne s'agit évidemment pas d'empêcher le visionnage de certains films par certaines catégories d'enfants. Je le répète suffisamment ici, reprenant le mot de je ne sais plus quel auteur ou autrice. Il convient de ne pas découper les enfants en tranches d'âge, comme il vaut mieux éviter de les découper en tranches tout court. Cependant, la capacité de concentration d'un enfant de 4 ans n'est pas tout à fait la même que celle d'un enfant de 9 ou 10 ans, et même si un enfant peut prendre plaisir à regarder un film sans le comprendre entièrement, comme un adulte d'ailleurs, il est agréable aussi d'en saisir le sens général. Le guide se divise ainsi en 4 parties qui conseillent des films à voir dès 7, 8, 9 ou 10 ans. Les auteurs rappellent en introduction que le phénomène actuel de surexposition des enfants aux écrans est frais, pas mal de parents, qui font parfois hélas le choix radical de les bannir complètement. Mais tous les contenus ne sont pas égaux, ou pour le dire plus justement, un bon film c'est précisément tout autre chose qu'un contenu. Si la salle de cinéma reste un lieu privilégié, magique pour découvrir un film, une séance à la maison, si possible dans un canapé, sous une couverture, avec du pop-corn, pourquoi pas, et blotti contre quelqu'un qu'on aime, est une porte d'entrée complémentaire et merveilleuse.
Et on peut être que d'accord avec vous, ça donne très envie Mathilde, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un livre pour avoir des idées de films à regarder? C'est une fausse question, parce que moi j'ai vraiment besoin de ce livre.
Et ben moi aussi, Marie, en tout cas, à partir de ma petite expérience personnelle, moi qui me rêve cinéphile, combien de fois me suis-je retrouvée à errer à garde sur différentes plateformes ou dans le rayon DVD d'une médiathèque par exemple, à la recherche désespérée d'un film à voir avec mes enfants, un film qui puisse leur plaire à eux deux, d'âge différent, autant qu'à moi, et ne fasse pas partie de la cohorte des films Disney, Pixar ou des Miyazaki que nous avons déjà vus et re-revus. Le guide donne de merveilleuses idées et permet aussi de passer outre certains préjugés des adultes bien plus que des enfants, le plus souvent d'ailleurs, qui imaginent par exemple que le noir et blanc ou le muet, c'est ennuyeux ou difficile d'accès. Il suffit, et pour prendre des exemples cités dans le livre, de montrer Frankenweenie, Le Petit Fugitif ou La Ruée vers l'or à une jeune personne pour mesurer à quel point c'est faux. Chaque film conseillé fait l'objet d'une double page qui présente l'affiche, un photogramme, un synopsis et un avis détaillé, et renvoie aussi vers un autre film et même vers un livre, tissant ainsi un rhizome de découvertes. Ces textes permettent permet aussi aux enfants de prendre conscience de cette chose étrange et fascinante qui fait que derrière une œuvre que l'on a aimée se cache cet être mystérieux que l'on appelle l'auteur. En raison des préjugés évoqués ou simplement par manque d'imagination, je n'aurais ainsi pas eu l'idée sans ce livre que je pourrais vivre avec des enfants l'exquis délice de découvrir ou redécouvrir La prisonnière du désert de John Ford, Un jour sans fin d'Harold Ramis, Où est la maison de mon ami de Kiarostami, La mort aux trousses d'Hitchcock, 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer, Bugsy Malone d'Alan Parker, Le miroir de Jafar Panahi, Le baron de Munchausen de Terry Gilliam, L'impossible Monsieur Bébé de Hawks, Wajda de Haifa Al-Mansour ou encore Tomboy de Céline Sciamma, pour ne citer qu'une poignée des quelques 110 films recommandés dans cet ouvrage.
Et vous vouliez aussi aujourd'hui, Mathilde, saluer la mémoire d'un éditeur dont on a appris tout récemment la disparition, François Ruy Vidal.
Oui Marie, François Ruy Vidal, disparu le 8 septembre dernier, à l'âge de 94 ans. C'était une figure de l'édition pour la jeunesse qui avait, à la toute fin des années 60, fondé une nouvelle collection d'albums jeunesse chez Grasset, en collaboration avec l'éditeur américain Harlan Quist, publiant une littérature novatrice. Projet qu'il avait poursuivi seul ensuite, au sein de différentes maisons. On lui doit certaines merveilles de livres signés Marcel Aimé, Roland Topor, Marguerite Duras, ou encore l'un de mes livres préférés, Les contes pour enfants de Ionesco, illustrés par Étienne de Le Serre, Philippe Corentin et Nicole Clavelou, et dont je vous ai déjà parlé à ce micro. François Ruy Vidal avait un jour résumé la conception qu'il se faisait de son métier en ces termes. Il n'y a pas d'art pour l'enfant, il y a l'art, il n'y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme, il n'y a pas de couleurs pour les enfants, il y a les couleurs, il n'y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. En partant de ces quatre principes, on peut dire qu'un livre pour enfants est un bon livre quand il est un bon livre pour tout le monde. Fin de citation. On pourrait dire exactement la même chose pour un film. On comprend que les auteurs du guide de cinéma Benchy aient fait figurer cette citation en introduction de leur livre La boucle est bouclée.
Ah ouais, incroyable, fortiche. Merci beaucoup Mathilde Wagman. Lecture jeunesse à réécouter sur franceculture.fr. Dans le book club Hélène Frappa, à la fin, on cherche de la musique dans les livres et on en a trouvé dans Nerona. Le jour où notre maison a pris feu, c'est Sibylle qui m'a consolée. Pendant longtemps, j'ai refusé d'évoquer notre tragédie familiale. Mais comme des charognards font circuler des rumeurs ignobles, il est temps que je dise la vérité. Avec Sibylle, on avait tendu une couverture entre deux chaises pour installer une petite tente dans notre chambre. On l'avait rempli de nos jouets, de nos peluches. Mon doudou, c'était un petit chat siamois avec des grands yeux bleus. Je l'appelais Candy, comme mon dessin animé préféré. « Trouve pas qu'il manque un truc dans notre maison ?» Sibylle m'a demandé. « La lumière. On n'y voit rien sous notre tente. » Alors Sibylle a trouvé une bougie et l'a allumée. C'est à ce moment-là que le générique d'OPI de Candy a retenti dans le salon et que Sibylle et moi, on a quitté la chambre en courant pour regarder notre dessin animé préféré. OPI de Candy. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Ma mère dit toujours que je chante comme une casserole, mais que voulez-vous, j'adore ça. Le cœur y est. Captivé par notre épisode, Sibylle et moi, on se plonge dans les aventures de notre héroïne. On oublie la bougie allumée.
Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine.
Merci beaucoup Hélène Frappa.
Merci
d'avoir été avec nous pour évoquer Nerona, paru aux éditions Actes Sud. Il y aura une adaptation ou pas à la radio ?
J'aimerais bien.
Nous aussi.
Peut-être une version opéra, on verra.
Ah ouais. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Bonnet, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions, particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman. Continuez la conversation autour du compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Leibegovitch.